Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 17-19, le mag, c'est Leïla Djebbour et je suis ravie de vous retrouver dans votre rendez-vous de l'actualité. Vous suivrez l'essentiel de l'information à travers les différentes éditions à 18h à 19h et au programme des rubriques et des reportages avec nos collègues journalistes de la rédaction de La Troupe. Focus sur la rentrée universitaire à travers le reportage de notre correspondante permanente à Tlemcen, Amina Bdiaoui, pour le suivi de cette actualité. Et le reportage du jour, c'est avec Sami Aloun qui s'intéresse aux cours en virtuel. Hassan Chemesh nous parlera des troubles de la vision chez les enfants scolarisés dans la chronique Santé. Et Zoom sur le monde avec Mariam Abdou qui reviendra sur les politiques d'extermination utilisées à Gaza par l'entité sioniste. Nous irons du côté de la scène culturelle avec Hanan Seissi pour suivre le déroulement de la quatrième et avant-dernière soirée du Festival international de la danse contemporaine au Théâtre national d'Alger, Mahiddine Bachtarsi. Et il y aura dans cette deuxième partie du magazine du sport avec Rostam Yahya Chérif. Et à partir de 17h45, vous pourrez nous contacter pour le point Infotrafic. Tout ça, c'est dans le magazine. Ça commence tout de suite et c'est jusqu'à 19h.
Reportage du jour.
Et arrivée en cette rentrée scolaire, certains élèves et enseignants pensent déjà à préparer leurs cours en virtuel, à distance, avec des approches pédagogiques modernes, une dynamique liée à un enseignement plus moderne encouragé par l'État qui mise sur la généralisation des tablettes électroniques et l'adoption de solutions innovantes développées par des start-up locales. C'est un reportage de Samia Alloun.
Une modernisation progressive des techniques employées au service de l'éducation, de l'enseignement et de la formation. L'aspect enseignement à distance ou enseignement hybride, qui mélange entre présentiel et virtuel, deviennent progressivement une réalité, facilitée par la généralisation de la technologie ainsi qu'une formation du personnel dédié. Des visuels interactifs, vidéos synthétisées explicatives qui tentent de familiariser aux plus jeunes des concepts en mathématiques, physique, sciences et autres matières fondamentales. L'objectif étant de suivre le programme national tout en favorisant l'aspect digital en ligne. Farida Bouachi, enseignante en informatique à l'USTHB.
Pour ma part, j'anime une chaîne YouTube où je partage les cours que je dispense en présentiel. L'avantage, c'est qu'un étudiant peut revoir un cours à tout moment, à son rythme et même depuis son téléphone. C'est aussi un moyen d'enrichir l'apprentissage grâce à des contenus variés, interactifs, parfois plus concrets que dans un cadre classique. Pour les enseignants, c'est l'occasion de toucher à un public plus large, de diversifier les méthodes et d'intégrer des supports visuels et pratiques. Bien sûr, il existe des défis comme le manque d'interaction directe ou la nécessité d'apprendre à s'autodiscipliner, mais globalement ces outils ouvrent la voie à une éducation plus flexible, plus inclusive et mieux adaptée aux besoins actuels des étudiants.
Des porteurs de projets tentent de mieux saisir et de sensibiliser davantage sur l'importance de l'exploitation des technologies éducatives, des approches modernes qui attirent une jeune génération avide de savoir et passionnée par les TIC. Shahrazade Mebarek, fondatrice de la plateforme éducative Binajah.
On a fait le pari de faire de l'enseignement sur mesure grâce à la technologie, donc on permet un matching efficient entre le prof et son élève. Donc les deux se choisissent mutuellement pour augmenter l'expérience d'apprentissage pour l'élève, faire en sorte qu'il progresse réellement. C'est quelque chose qu'on peut mesurer et surveiller. Je pense que les technologies aujourd'hui ont beaucoup à offrir à nos élèves et c'est sur ça qu'on travaille chez Binajah avec des cours particuliers.
Des moyens techniques sont cependant nécessaires pour accompagner ces nouveaux modes d'enseignement interactifs. Le président de la République a d'ailleurs à maintes fois souligné l'importance de doter les écoles de tablettes électroniques pour alléger le poids du cartable et moderniser les méthodes pédagogiques. Brahim Dehili, cofondateur de la start-up Zidney, spécialisée dans les technologies de l'éducation.
Équiper les écoles primaires en tablettes numériques avec un taux d'intégration d'au moins 70% est une orientation stratégique majeure et elle tombe à point nommé. Nos élèves, nos enseignants et notre système éducatif ont besoin de cette modernisation. Pas seulement pour alléger le poids du cartable, mais aussi et surtout pour faciliter l'accès au contenu interactif, au suivi pédagogique et même pour un apprentissage plus individualisé. C'est là où les startups algériennes ont un rôle clé à jouer.
Les outils technologiques pédagogiques s'imposent peu à peu dans le paysage éducatif national, catalysé par des compétences locales qui misent sur le numérique pour proposer des méthodes d'enseignement connectées, en plus des méthodes traditionnelles, pour préparer la nouvelle génération aux méthodes d'enseignement de demain.
That's sweet, I guess so. I'm working late, 'cause I'm a sinner.
Le correspondant du jour.
Et c'est 1 800 000 étudiants, dont près de 300 000 nouveaux inscrits, qui font leur rentrée universitaire 2025-2026, répartis sur 117 établissements à travers le pays. Le coup d'envoi officiel a été donné depuis l'université de Thyssen-Sylt, une rentrée placée sous le signe de l'économie, de la connaissance, de l'innovation. Notre correspondante Amina Djaoui.
L'université de Tlemcen s'apprête à accueillir ce matin environ 8000 nouveaux étudiants pour cette rentrée universitaire, comme l'a annoncé le recteur, professeur Mirachou Mourad. Cette année marque un tournant important avec l'ouverture de l'annexe de l'école supérieure des enseignants d'Oran installée au pôle universitaire de Chetouane. Cette nouvelle structure accueillera près de 900 étudiants répartis sur les différents cycles de formation, nous explique Monsieur le recteur.
Là, on va recevoir environ 900 étudiants pour les différents paliers, PEP, PEM et PES, c'est-à-dire professeurs d'enseignement primaire, professeurs d'enseignement moyen et professeurs d'enseignement secondaire, différentes spécialités. On tourne sur 16 spécialités, anglais, français, arabe, sciences physiques, sciences naturelles, sciences économiques et autres. Bien sûr, c'est une opportunité pour les étudiants parce que c'est des postes d'emploi par la suite. Nous espérons plein succès pour eux. Ça, c'est les nouveaux bacheliers qui ont opté pour cette formation en MS qui, à la fin de leur formation, à savoir 5 ans pour PEM et 6 ans pour les PES, à l'issue de laquelle de l'éducation nationale.
Par ailleurs, l'université de Tlemcen enrichit son offre pédagogique avec l'ouverture de nouvelles spécialités cette année. 3 licences, 3 masters et 4 formations d'ingénieurs. Parmi les nouveautés, on note particulièrement une licence en sciences islamiques qui vient combler un manque au sein de la faculté des sciences humaines et sociales. Master en chimie catalytique, adossé à un laboratoire d'excellence, une formation en efficacité énergétique dans les énergies renouvelables complète cette offre innovante. Ces développements témoignent de la volonté de l'Université de Tlemcen de répondre aux besoins du marché du travail tout en offrant des perspectives d'avenir prometteuses aux étudiants. De Tlemcen, Amina Bejaoui pour Alger Chaîne 3.
C'était notre correspondante permanente Amina Bejaoui de Tlemcen.
All my life I've been waiting for something like this. L'instant santé avec Hassan Chemesh.
Et nous parlerons aujourd'hui des troubles de la vision chez les enfants scolarisés. Beaucoup d'enfants souffrent de problèmes de la vue, surtout avec la surconsommation des écrans. Les conséquences sont graves. Les experts insistent sur la nécessité de consulter, surtout avant l'âge scolaire.
Une étude de l'OMS nous révèle qu'à l'horizon 2050, 50% de la population, surtout la population infantile, va présenter des problèmes de myopie, réalisant ainsi une véritable épidémie à l'échelle mondiale.
La réussite scolaire passe aussi par la vue. La vue de l'enfant se développe jusqu'à l'âge de 6 ans et se stabilise à l'âge de 12 ans. L'enfant qui ne voit pas bien ne s'en rend pas compte. Il ne sait pas si sa vue est floue ou déformé, car ce qu'il voit est la seule chose qu'il connaisse. L'enfant s'adapte pour compenser ses faiblesses visuelles en s'approchant ou s'éloignant pour mieux voir, en faisant travailler un œil plus que l'autre, par exemple.
Actuellement, on considère que 15% des enfants présentent des troubles visuels. C'est pour cela que j'alerte les parents, et notamment ceux qui scolarisent leurs enfants pour la première fois, de se rapprocher d'un médecin ophtalmologiste qui va faire un état des lieux initial de l'état du degré de l'acuité visuelle de votre enfant, et notamment si cet enfant a des frères et sœurs qui sont porteurs de lunettes.
Le docteur Abdelkader Messaadi, ophtalmologiste.
30% des problèmes d'acuité visuelle sont liés à des problèmes d'hérédité. Ces problèmes sont essentiellement de la myopie, c'est-à-dire un allongement, soit un allongement de l'œil progressivement, et cet allongement va s'aggraver non seulement avec la croissance, mais également avec la surconsommation des écrans, soit c'est un œil qui va être très court, c'est ce qu'on appelle l'hypermétropie. Je vous rappelle au passage que tous les enfants naissent avec un certain degré d'hypermétropie, et cette hypermétropie diminue au fur et à mesure de l'âge. Et c'est tout à fait naturel grâce ou à cause de la croissance du globe oculaire. Certains enfants, vu la surconsommation des écrans, vont se mettre à frotter les yeux, et ce frottement est connu comme étant un déclencheur de la déformation de l'état cornéen par perte de sa rigidité, et va déclencher un trouble visuel qu'on appelle l'astigmatisme, c'est-à-dire une différence de courbure de la cornée sur les différents axes, et qui va être vraiment une source de gêne dans la lecture, avec une confusion des lettres, des maux de tête en fin de journée, voire des rougeurs, et c'est un cercle vicieux avec ces rougeurs qui vont engendrer des picotements, et picotements qui vont déclencher le frottement et une aggravation de cet astigmatisme.
L'enseignant peut détecter tout trouble de vue si l'enfant se plaint de ne pas bien voir au tableau, ou s'il a du mal à se concentrer, ou s'il ne joue pas à la récréation avec les autres. À tout moment, il doit alerter les parents.
Mon second message s'adresse aux enseignants. Observez vos élèves et dépistez des attitudes vicieuses, voire anormales. Voir, par exemple, un enfant trop se rapprocher du tableau pour écrire ce qu'il voit, voir un enfant copier sur son camarade, voir un enfant ne pas écrire sur la ligne, voir un enfant écrire trop gros, voir un enfant trop se rapprocher de son cahier sont des signes révélateurs d'un déficit visuel qui doit alerter les parents de ces élèves-là qui vont à leur tour se rapprocher d'un médecin ophtalmologiste au vu de faire l'évaluation finale et de prescrire une lunette si nécessaire.
Il est recommandé de consulter un ophtalmologiste une fois par an. L'idéal est de consulter avant chaque rentrée scolaire pour adapter les corrections si nécessaire. Plus les troubles visuels sont détectés tôt, plus ils sont faciles à corriger et moins l'enfant rencontre de difficultés dans sa scolarité.
Call the doctor, page the nurse, 'cause the pain is getting worse. All the sleepless nights, I'm tired of suffering, like I've been. I tried medicine, I tried therapy, I tried somebody else for a couple weeks. Now I know why it's been so hard to breathe. Yeah, I need a new heart.
nothing's left. I've tried medicine, I've tried therapy, I've tried somebody else for a couple weeks. Now I know why it's been so hard to breathe. Yeah, I need a new heart.
L'actualité politique, c'est dans la chronique de Hassan Qassimi.
Eh bien, question donc avec Monsieur Qassimi, c'est déjà la rentrée sociale qui constitue un événement national consacrant la fin des vacances et la reprise de l'activité professionnelle.
Effectivement, c'est la rentrée sociale et tous les acteurs institutionnels, notamment les personnes et les familles, se sont bien préparés pour un tel événement national qui consacre de manière solennelle la reprise de l'activité professionnelle, scolaire et universitaire. Chacun, dans son domaine d'activité, doit mener à bien les missions d'intérêt général et d'utilité publique qui nous sont assignées pour le bien de la nation, de la société, de la collectivité et des services publics. Un remaniement ministériel est aussi intervenu à quelques jours de la rentrée sociale pour procéder à des réajustements techniques devant améliorer l'efficacité, la cohésion et le rendement de l'action publique. Chaque secteur est ainsi missionné pour la réalisation de nouveaux défis stratégiques de la nation, devant faire de l'Algérie un pays fort, prospère, stable, à l'abri des turbulences, des incertitudes et des menaces de toute nature que nous devons absolument prévoir, prendre en charge et neutraliser à temps. La rentrée sociale a été aussi préparée activement au plus haut niveau de l'État pour assurer la prise en charge de tous les nouveaux défis qui ne doivent en aucun cas impacter le fonctionnement des institutions publiques qui doivent faire preuve à tout moment de résilience, d'anticipation prospective, de continuité du service public qui sont les traits de l'État numérique, électronique et
Zoom
moderne.
Sur le monde.
Massacre, tuerie en masse et la volonté d'anéantir, telles sont les pratiques de l'entité d'occupation de Deir Yassin à Gaza. Les crimes à grande échelle sont multiples. Même si des condamnations s'en sont suivies, appuyées par des mandats d'arrêt internationaux, les génocides, l'un chassant l'autre, se poursuivent. Cette année, presque aucun média n'a évoqué les massacres de Sabra et Shatila. Ceci n'est évidemment pas un oubli, mais une omission délibérée, car il s'agit, pour cette entité sournoise, de laisser croire que tout a commencé le 7 octobre. Dans Questions internationales, Malima Abdou en parle.
Zoom sur le monde.
Madame, monsieur, bonjour. L'entité et ses dites armées ont bâti leur réputation de génocidaire sur des crimes et des massacres de masse. Des enquêtes et des mandats d'arrêt ont été établis, et plus d'une fois, mais stoppés net par des politiques qualifiées d'alliés. Cette année, aucun média, ou presque aucun média, n'a évoqué le massacre de Sabra et Shatila. Il y a en effet une volonté de faire croire que tout a démarré le 7 octobre. Avec nous en ligne, monsieur Jacques-Marie Bourget, vous êtes l'auteur de l'ouvrage Sabra et Shatila, au cœur du massacre. Vous étiez au Liban en 1982, quand pendant 3 jours, des massacres étaient commis dans les camps de Palestiniens. Aujourd'hui, que peut-on retenir ?
Il y a un chercheur à l'université de Princeton aux États-Unis qui s'appelle Seth Ansiska qui a eu accès aux fameuses clauses du rapport Kahane qui a été fait après Sabra Shatila, et ce rapport Kahane avait des clauses secrètes. Et il a eu accès aux clauses secrètes. Et dans ces clauses secrètes, plus l'étude des verbatims de la Maison-Blanche, Ansiska a démontré que même Reagan, Dieu sait si Reagan était radical, que Sharon lui a tordu le bras, ainsi que Draper, qui était le diplomate en charge du Moyen-Orient, qui s'occupait de ce dossier. Et quand Reagan disait, enfin, le 17, hein, un jour après l'entrée des troupes phalangistes dans le camp, mais arrêtez cette histoire, Sharon répondait, mais qui va s'occuper du boulot? Il y a une phrase qui est dans le rapport Kahane et qui dit alors on va les tuer, il n'en restera aucun. C'est Sharon lui-même qui dit ça. C'est un plan concerté d'élimination.
Samedi 18 septembre, vous retournez au camp au petit matin. Là, vous croisez des hommes et des femmes fuyant sans parler, sans dire ce qu'ils avaient vu et ce que d'autres avaient subi.
Oui, oui, c'est vrai. Samedi matin à l'aube, on est revenu. On tombe dans un camp désert, silencieux, un cimetière atroce. Et on croise des gens apeurés, mais qu'on peut pas interroger. C'est impossible de leur poser des questions. C'était l'effroi. Je suivais la grande allée de Shatila, et c'est là où on est tombé sur des amoncellements de morts qu'on ne voyait pas depuis la partie centrale du camp. Et à partir de ce moment-là, c'était la mort, les amoncellements de cadavres. Il y avait une pelleteuse qui était déjà en train d'enterrer les morts, comme pour les cacher, volonté de camouflage.
Et monsieur Bourget, vous expliquez par ailleurs qu'un Palestinien vous a dit « Sabra et Shatila était comme tous les autres massacres que les Palestiniens avaient connus ». Vous rajoutez une sorte d'habitude malheureuse. Vous dites « il y a une volonté d'éradiquer les Palestiniens jusque dans la tombe ».
L'extermination, on la voit dans Sabra Shatila, dans cette volonté de tuer les femmes, d'ouvrir le ventre des femmes enceintes, de supprimer les bébés, c'est effrayant. C'était l'enfer, quoi. C'était Dante, c'était inimaginable. Et c'était ça, c'était l'exécution du plan. Je répète ce qu'a dit le patron du Mossad. S'il faut plusieurs Yassine, on le fera. On va les tuer, il n'en restera aucun.
Monsieur Jacques-Marie Bourget, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci beaucoup,
je
monsieur.
Vous en prie.
Zoom sur le monde.
نهديلك روحي ومالي ونحلف لك بمين نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العلي ورب العالمين يعي على مكي لالي وجبالك حرين قسما بالله العلي ورب العالمين يعي على مكي لالي وجبالك حرين يا عيان على مكي لالي يا أرض صلاح الدين
احنا معاك شرقي وغربي كلنا في دار نتكلم صاميم قلبي لا تأخر أبدا للفتح وطني وشعبي هما المسببين تحيا فلسطين
نهديلك روحي ومالي ونحلف لك بمين يفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العالي ورب العالمين يا يعلمك هلالي وجبالك حرين قسما بالله العالي
فلسطين ثوريه سلاح والايمان تاريخ امه
شايع في البلدان. احنا هو مصحف التضحية ما نخاف عديان في سبيل الله والحرية احنا المجاهدين.
Et si vous venez de nous rejoindre, bienvenue dans cette première partie du magazine qui continue avec, dans pas très longtemps, le point route en votre compagnie. Au 021 48 15 15, vous pourrez nous contacter pour partager avec nous l'état de la circulation à travers toutes les wilayas. N'hésitez pas à interagir avec nous à travers les réseaux sociaux sur la page Instagram et Facebook Algéchin 3.
L'inforoute.
But the horns, they blowin' that sound. guitar George. He knows all the chords. Learning strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing.
Le point route en votre compagnie, chers auditeurs. Alors n'hésitez pas à nous contacter plus que 10 minutes avant la fin de cette première partie.
I've been waiting.
Et bientôt la deuxième partie de ce magazine avec l'actualité sportive. On retrouvera Rostam Yahya Chérif et il y aura bien sûr de l'actualité culturelle avec Hanan Saïsi qui s'intéresse à la quatrième et avant-dernière soirée du programme du Festival International de la Danse Contemporaine au Théâtre National d'Alger.
next to you.
Il est 18h sur AG Chaîne 3, vous retrouvez tout de suite le sommaire avec Walid Selman.
Bonsoir Leïla, mesdames, messieurs, bonsoir. Et au sommaire de l'édition de 19h, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, reçoit l'archevêque d'Alger, le cardinal Jean-Paul Vesco. Le chef de l'État qui félicite étudiants, enseignants et tous les travailleurs du secteur de l'enseignement supérieur. Lancement officiel ce lundi de la rentrée universitaire. Nous ferons le point à travers le pays dans notre édition de 19h. Elle figure parmi les plus grands complexes agroalimentaires du pays, le complexe de trituration des graines oléagineuses et d'aliments pour bétail de Digel Kutama Agrifood. Inauguré par le Premier ministre, il s'agit d'une bataille remportée sur les corrompus et les pilleurs des fonds publics, un défi relevé par des compétences 100% algériennes. Également inspecté la deuxième tranche du projet du terminal à conteneurs au port de Jinjin, une visite sur instruction du président de la République au lendemain du Conseil des ministres, le premier du gouvernement, Sifir Riba. Et cette importante saisie de drogue opérée par la Sûreté nationale, 113 kg de cocaïne, 220 000 comprimés psychotropes de type pré-gabaline, saisie Amsila, dont le CIA, signature d'une convention entre la Direction Générale de la Sûreté Nationale et la cellule de traitement du renseignement financier, en point de mire la lutte notamment contre les réseaux de blanchiment d'argent. Nous sommes à la veille de l'Assemblée Générale de l'ONU, elle sera largement dédiée au génocide perpétré à Gaza. Représentant l'Algérie, Ahmed Attaf prend part à New York à la cérémonie de lancement officiel de la Déclaration mondiale sur la protection du personnel humanitaire, la célébration du 80e anniversaire de la création de l'Organisation des Nations Unies, autre événement auquel a pris part le chef de la diplomatie. Et puis il y aura également du sport avec notamment la cérémonie de remise du Ballon d'Or. Elle est prévue pour ce soir. Le développement de tous ces titres dans moins d'une heure à 19h. Très bonne écoute. Et tout de suite, la page météo, les couleurs du ciel avec vous, Leïla Djebbouna.
Rebonsoir Walid, la météo pour ce soir. Donc, au nord du pays, le ciel sera voilé à parfois nuageux avec des averses par endroits, localement orageuses sur l'intérieur, les hauts plateaux. Ces pluies pourront être localement soutenues, parfois accompagnées de grêles. À l'ouest du pays, le temps sera dégagé à partiellement voilé avec quelques foyers orageux isolés en soirée sur l'intérieur et les hauts plateaux pouvant donner localement de petites averses. Au centre-est du pays, à noter un passage nuageux sur les côtes et l'intérieur avec un reste d'averses nuageuses. D'averses orageuses sur les hauts plateaux et les hautes plaines. Au sud du pays, le temps sera globalement dégagé avec la possibilité d'orages isolés en soirée sur le Nord Sahara et la région de Béchar. À l'extrême sud, quelques nuages pourraient évoluer en orages localisés et les températures pour ce soir seront de 19 degrés à Constantine, 20 degrés à Alger, 17 degrés à Mdia, 16 degrés à Astrif, 18 degrés à Tizi Ouzou, 16 à Betna, 24 degrés à Ardeya, 26 à Loued et 28 degrés à Ain Ghazem.
Thank you.
Et bienvenue dans cette deuxième partie du magazine. Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus, chers auditeurs. Et on entame ce magazine avec cette actualité sportive, plutôt, avec les championnats du monde de cyclisme au Rwanda. Avec vous, Rostom Yahya Chérif. Bonsoir.
Bonsoir, Leïla.
Et c'est Oussama Mimouni qui termine à la 34e place du contre-la-montre.
Et c'est chez les U23, 34e sur 60 participants parcourant les 31,2 km avec un chrono de 42 minutes 57 secondes à 5 minutes derrière le nouveau champion du monde, le Suédois Jakob Södergrist, qui a survolé le parcours avec un temps de 38 minutes 24 secondes à 1 minute 4 devant le Néerlandais Nate Pringle et 2 minutes 4 par rapport au Français Maxime Decomble. Prochain Algérien à entrer en lice, ça sera Salah Hamzaoui lors de la course contre la montre chez les juniors prévue demain à partir de 14h57 sur une boucle de 23 km au niveau de la capitale rwandaise Kigali. Je rappelle ces championnats du monde de cyclisme qui se déroulent pour la première fois en terre africaine et c'est au Rwanda. Le programme des Algériens dans ces championnats du monde, mis à part Salah Hamzaoui demain pour la course contre la montre chez les juniors, on aura le jeudi 25 septembre lors de la course en ligne chez les U23 Oussama Mimouni, le vendredi 26 septembre la course en ligne chez les juniors Salah Hamzaoui et puis la course élite chez les seniors, ça sera dimanche 28 septembre, Slimane Badlis qui sera sur la ligne de départ.
Et en football, match perdu pour le RC Larba face au Nahd.
Mais juste avant de développer ce sujet, ça vient de tomber. La sélection nationale apprime les joueurs locaux, rivés par le sélectionneur national Majid Bougra, affronteront alors au mois d'octobre deux matchs amicaux. Ça sera face à la Palestine le 9 octobre à 20h30 et le 13 octobre à 18h au stade du 19 mai 56 de Annabal. Donc les deux rencontres amicales, ça sera face à la Palestine pour la sélection nationale. A prime, l'information vient de tomber, ça vient d'être annoncé par la Fédération algérienne de football. Comme vous le disiez, Leïla, le RC Larba qui perd son match face au Nahd, plus une défalcation de 3 points pour son forfait à domicile contre le Nahd le week-end dernier dans le cadre de la deuxième journée du championnat national de Ligue 2 groupe Centre-Ouest. Le RC Larba devra s'acquitter aussi d'une amende de 200 000 dinars, car s'agissant d'une deuxième infraction, indique c'est ce qu'a indiqué l'instance de la Ligue nationale de football amateur dans un communiqué. Cette décision a été prise suivant le circulaire numéro 976 de la Fédération algérienne de football publié le 1er septembre 2025 et définissant les sanctions prévues pour les absences non justifiées. Une issue qui arrange le Nahd, qui à la faveur de ce gain de match sur tapis vert rejoint le RC Kouba en tête du classement général avec 6 points pour chaque club de son côté. Après ce deuxième forfait en deux matchs, le RC Larba s'enfonce un peu plus dans les abysses du classement. Il est désormais lanterne rouge avec moins 3 points.
Et on passe au basketball avec la fédération algérienne qui oblige la réalisation des statistiques lors des matchs de Super Division.
C'est une nouveauté dans le championnat Super Division, messieurs, avec cette obligation désormais pour toutes les de réaliser des statistiques pour toutes les rencontres de la saison sportive 2025-2026 dans le cadre du bon déroulement du championnat national de Super Division, messieurs, et conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Il est à rappeler aux clubs que la réalisation des statistiques de match est obligatoire pour toutes les rencontres de la saison. Chaque club est tenu de prévoir et ou de responsabiliser deux techniciens qualifiés pour assurer cette mission durant ces matchs. Les clubs ne disposant pas du personnel formé en la matière pourront recourir à la commission des statisticiens reconnue par la Fédération algérienne de basketball, laquelle mettra à disposition des techniciens qualifiés et ce contre un paiement d'une prime fixée à 3500 dinars par match. Il faut dire que ça a été également cette réalisation, cette obligation plutôt, a été demandée d'un côté par le sélectionneur national Ali Bouzian, le sélectionneur national de basketball, puisque pour pouvoir sélectionner des joueurs oui. nationaux, il nous faut des statistiques pour
c'est
voir
normal.
À peu près où logique. Ils en sont. C'est logique, oui. Il y a aussi, il avait d'ailleurs critiqué même sur nos ondes, Ali Bouzian, le sélectionneur national, le manque de médiatisation du championnat Super Division, messieurs, surtout le manque de statistiques. Là, au moins, il pourra se baser sur des données pour convoquer des joueurs pour les prochains recrutements de la sélection nationale. D'ailleurs, une info spéciale pour la chaîne 3. Prochain recrutement de la sélection nationale, c'est officiel, ça sera au mois de novembre prochain. Et puis, puisqu'on parle de basketball, la Fédération algérienne de basketball vient d'annoncer le programme de 3e journée chez les messieurs. Ça débutera vendredi avec 6 matchs au programme. À 15h, Club Sportif de Tlemcen qui accueillera le champion d'Algérie en titre, le NB Stawali. Le Chabab Yadi de Bnissaf, également à la même heure, accueillera le Nahd. À 17h, Trat de Daria, Union Sportive de Sétif. À 17h, le derby de la Métidja entre le Wydad de Boufarik et le Moustakbel de Ouled Chbel. À 17h, deux belles affiches d'abord à la salle de Hidra. À 17h, CSE Guide Constantine, USM Blida. Et à 19h, Mouloudia d'Alger, USM Alger. Ces deux rencontres, vous pourrez le suivre en direct sur nos ondes. Et puis, la suite et fin de cette troisième journée Super Division, messieurs, ça sera samedi à 17h avec le Cheb El Yadi de Beledi d'Albeida face au Louis Club Basketball.
Et on passe à une autre discipline avec la Super Coupe d'Algérie de handball, qui a été décalé.
Messieurs et dames, initialement programmé pour ce vendredi 26 septembre, a été décalé au 17 octobre à la salle Omnisport de Djidjel. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la Fédération algérienne de handball. Chez les messieurs, le match opposera le Handball Club d'El Biar, récent vainqueur de la Coupe d'Algérie à l'Olympique d'El Oued, champion d'Algérie en titre. Une belle affiche entre deux équipes qui ont marqué la saison, puisque, je le rappelle, les deux équipes s'étaient affrontées en finale du championnat d'Algérie la saison dernière, où El Oued avait pris le dessus 17-16, mais la formation d'El Biar avait ensuite pris sa revanche en demi-finale de la Coupe d'Algérie. De son côté, chez les dames, ça sera le Handball Club d'El Biar, champion d'Algérie en titre et vainqueur de la Coupe d'Algérie, qui sera opposé au club féminin de Boumeldès.
Et on revient au football avec cette belle soirée qui s'annonce très bien ce soir avec l'événement le Ballon d'Or 2025, donc football européen.
Exactement, et qui succédera à Rodri, le milieu défensif de Manchester City, et il y en a deux favoris, l'attaquant Ousmane Dembélé du PSG, qui est le grand favori pour soulever le Ballon d'Or ce soir à Paris, au cours d'une cérémonie qui devrait consacrer la saison historique du PSG, également champion de France, champion d'Europe, même si la star montante du FC Barcelone, Lamine Yamal, peut lui aussi espérer décrocher le trophée. D'ailleurs, le média qui décerne ce trophée du Ballon d'Or commence à révéler le classement des 30 meilleurs joueurs du monde. Déjà, on retrouve à la 26e place Erling Haaland. On retrouve également à la 23e place Jude Bellingham. Ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas cette année Vinicius Junior, puisqu'il est à la 16e place du classement des meilleurs joueurs du monde. Et puis, celui qui va décerner le Ballon d'Or ce soir, ça sera la légende Ronaldinho. Et Ronaldinho, qui dans une interview a dit: j'ai été invité à remettre le Ballon d'Or et je sais déjà qui va le remporter. C'est un joueur d'un club dont j'ai déjà porté le maillot, sachant qu'il a déjà porté le maillot du PSG,
du Barça
et du Barça. Exactement, très bonne réponse.
Donc,
puis vous êtes supporter du FC Barcelone et que vous rêvez que ça sera Lamine Yamal. Oui. Eh bien, on va savoir ce soir si ça sera Lamine Yamal peut-être ou Ousmane Dembélé. Puis on va terminer cette partie sport avec du handball. Il y avait cette semaine le championnat d'Afrique des U17 et des filles qui s'est déroulé à Oran. L'autre fille, Bénidir, nous a fait vivre cette édition de championnat d'Afrique des U17, où il a rencontré la sélectionneuse de la sélection guinéenne de handball. Elle s'appelle Mara Titi Clémentine. On écoute cet entretien de l'autre fille, Bénidir.
Alors, première question, on va, avant de parler de la compétition en ce moment, les moins de 17 ans, vous êtes obligé de revenir chez les moins de 19 ans, où vous avez remporté le titre honorifique de vice-champion d'Afrique. Vous avez atteint la finale, vous avez perdu face à les sélections égyptiennes, un match que vous avez quasiment dominé durant la plus grande partie du temps. D'abord, est-ce que vous vous attendiez justement à atteindre la finale?
Oui, je m'attendais déjà être sur le podium, surtout disputer la finale avec l'Égypte. Vous savez, en 2022, on a rencontré l'Égypte en cadette. Elles nous ont dominé largement le jour de la finale. Et du coup, une fois au pays, qu'est-ce que j'ai eu à faire? Nos lacunes, j'ai eu à travailler ça. Donc c'est pour cela, au retour cette fois-ci, ici en Algérie, lors de la finale, elles n'ont pas eu assez de potentiel pour nous dominer comme la dernière fois. Et ça s'est joué sur les détails dans le terrain.
Et une nouvelle fois, vous êtes à la tête des moins de 17 ans également. On a vu deux matchs, deux victoires. Ça démontre les intentions de la Guinée d'aller une nouvelle fois tenter peut-être de chercher cette fois-ci un sac que vous avez perdu il y a 2 ans de ça.
Oui, chez les U17, j'ai beaucoup d'espoir, parce que chez les U19, je n'avais pas beaucoup de tireuses de bas arrière qui tirent de loin. Donc c'était notre impact. Par contre, chez les U17, et j'espère prendre ma revanche sans minimiser l'équipe adverse qui va se trouver en face, que ce soit l'Égypte, la Tunisie, l'Angola, sans les minimiser, je compte bien me servir de ce qui n'a pas marché en junior pour trouver la solution en cadette Donc nous comptons réellement tenir le coup jusqu'au bout.
Et en matière d'effectifs, est-ce que c'est des joueuses qu'elles ont été formées en Guinée ou bien dans d'autres championnats étrangers?
Non, c'est les joueuses à 99% locales, parce qu'il n'y a que en junior, il n'y a que une qui vient de l'étranger en France, et elle a sa jeune sœur qui se retrouve chez les cadettes. Donc c'est les filles 100% locales dans le pays. Il y a d'autres même à l'intérieur du pays, dans les villages. On les a détectées lors de colonies des vacances.
Justement, en parlant de la Guinée, c'est une sélection qui émerge. On l'a vu en senior, hein, chez les filles, également chez les garçons. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que la Guinée parvient à s'imposer dans un championnat africain où, il faut le dire, hein, c'est un championnat fermé ou dominé plusieurs années par l'Égypte, la Tunisie, l'Angola, l'Algérie également. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que la Guinée parvient à s'imposer petit à petit à l'échelle africaine?
Ça nous a demandé beaucoup de courage. Et par rapport aux différents stages qu'on arrive à participer lors des licences, du coup, la majorité des entraîneurs arrivent à participer des stages. Donc, les formations qu'on arrive à prendre au niveau des stages, une fois au pays, on le met en pratique. Et c'est ce qui fait beaucoup d'amélioration, parce que si on restait dans notre cadre seulement, sans aller apprendre ailleurs, il n'y aura pas d'évolution. C'est la sortie qui fait en sorte qu'on arrive à recueillir beaucoup de solutions et beaucoup de bonnes choses pour venir mettre en place dans le pays.
Vous parlez de formation. Vous avez pensé d'abord à former les formateurs, c'est bien ça?
Oui, les techniciens d'abord, nous les entraîneurs, on nous envoie au stage pour faire la formation. Après, une fois au pays, ce qu'on a appris là-bas, on vient, on donne aux enfants pour être formés aussi.
Vous avez effectué les stages, plus précisément, c'est des stages, vous parlez des stages qu'on fait actuellement, l'IHF B et C.
Bien sûr, parce que moi j'ai eu ma licence D en Guinée avec l'experte Ilona, après la licence C avec Monsieur Paul Landré et Madame Narla. Maintenant la licence B avec Monsieur Bob, l'Algérien, mais qui réside en Allemagne, et Monsieur de la Slovénie. Donc du coup, c'est à travers ces différents stages qu'on arrive à progresser.
La formation des entraîneurs, on en a parlé. Après, comment vous avez pu mettre tout cela en pratique? Par exemple, à commencer par la détection des jeunes talents. Comment vous êtes organisé?
En fait, on a des entraîneurs qui sont professeurs de sport dans les écoles. Donc, la détection vient des écoles et à l'intérieur du pays. Maintenant, on organise des petites sorties en faisant une vulgarisation des différentes disciplines, que ce soit le basket, le handball, le football. C'est comme ça qu'on arrive à regrouper des gens. Et on fait des petits tournois. Notre championnat ne dure pas assez. Donc on fait un petit tournoi des minimes, des cadettes et des juniors. Maintenant au niveau des seniors, c'est là qu'on fait le championnat de la Ligue 1. Par exemple, moi, j'ai un club de la Ligue 1. Et je suis championne de Guinée en titre. Et c'est comme ça qu'on arrive à détecter les joueuses et en les formant petit à petit. Notre obstacle, c'est que chez nous, on n'arrive pas à voir les filles grandes de taille. C'est seulement les petites de taille. Si vous voyez bien, mes juniors, elles sont très courtes, mais très rapides. Vous savez, ce qu'on ne gagne pas en taille, on met dans la rapidité dans le match.
Donc si je comprends bien, vous êtes plus penché sur le sport scolaire. C'est à partir de là où vous commencez à effectuer la prospection. À partir de quel âge ça commence?
Chez nous, comme je vois chez les autres, à partir de 7 ans, 8 ans, non, pas du tout. Nous, on commence à partir de 12 ans, 13 ans, parce que les parents ne laissent pas souvent les enfants venir pratiquer le sport. Ils se disent que quand les enfants vont s'intéresser au sport, ils vont pas prendre les études au sérieux. La majorité de nos filles ne sont pas bien instruites. C'est des filles, deux fois, qu'on peut rencontrer, par exemple, dans le quartier. Elles vendent des choses, elles n'est pas à l'école. Mais la majorité, on les prenne à l'école. Mais le niveau n'est pas là. Les parents, surtout chez les filles, les parents disent que le sport n'est pas fait pour les filles. C'est pour les garçons. Donc, il faut aller dans les familles, les convaincre, leur subvenir un besoin pour les jeunes, pour leur convaincre de dire, laissez vos filles venir, et elles auront des atouts, on va les scolariser, un peu de tout. On les prend à partir de 13 à 14 ans.
Et en ce qui concerne justement le champ, on en a parlé, le championnat, est-ce que le championnat reste tout de même un championnat régulier? Il y a combien de licenciés dans cette catégorie en moyenne chez les moins de 17 ans, les moins de 15 ans?
Il n'y en a pas beaucoup. À vrai dire, il n'y en a pas beaucoup.
Donc, c'est plus vous basez sur les petits tournois, comme ça que vous faites en parallèle?
Oui. On se bat sur les petits tournois et on arrive à trôner, faire des vulgarisations. C'est comme ça on s'en sort. Mais si on parle du vrai championnat, on n'en a pas assez. Pas du tout.
Et on parle souvent maintenant, on a vu, il y a un très bon groupe chez les moins de 19 ans. Est-ce que vous pensez que pour ces joueuses, il faudrait peut-être aller dans des championnats européens pour progresser tout simplement? Est-ce qu'il y a, au niveau de la fédération, il y a peut-être cette vision d'aider ces joueuses-là à percer encore mieux?
Bien sûr, la fédération a cette vision par rapport aux joueuses. Il y a la majorité parmi elles qui sont déjà détectées par d'autres pays, mais sauf que la fédération n'est pas trop accompagnée par l'État, parce qu'on manque de moyens pour mettre beaucoup de choses en place. Donc du coup, on se contente du peu de moyens qu'on a. Sinon, la fédération a une grande vision, une très grande vision par rapport à l'évolution des joueuses dans un autre championnat.
Mais par rapport, par rapport au développement du handball féminin africain, qu'est-ce qui manque réellement? Il y a également le problème de la formation, il réside partout dans les différents pays. On sent qu'il y a de la qualité, il y a du potentiel, notamment sur le plan physique également, mais on manque toujours, il y a un petit manque de moyens qui permettrait peut-être à la joueuse, à la handballeuse africaine de concurrencer justement le niveau mondial. On le voit, ils ont atteint un niveau très avancé.
C'est ce que j'essaie de vous dire là, on est en manque d'accompagnement. On est vraiment en manque d'accompagnement. Il n'y a pas du tout les moyens par rapport à ça.
Et au niveau de la Guinée, comment voyez-vous dans 5 ans le handball féminin guinéen à l'échelle africaine, optimiste?
Inch'Allah, on va essayer de continuer à former des jeunes, à miser sur elles. Pourquoi pas pendant, si on arrive à détecter, on a des jeunes encore au pays, hein. Donc on va les préparer, on va faire la même chose qu'on a faite avec les autres. Et on pense bien que dans l'avenir, il y aura beaucoup de progression, il y aura beaucoup de bons résultats surtout. Parce qu'il faut pas juste figurer dans les compétitions. Il faudrait faire beaucoup d'efforts pour être vu comme l'a fait les U19. Parce que par rapport à cette CAN, je crois bien, elles ont fait beaucoup de progression. Et elles ont été félicitées partout. Et connaissant nos antiquités, le handball guinéen n'était pas aussi que ça. Donc du coup, c'est un exploit pour nous. Et on compte pas s'arrêter. Nous comptons vraiment avancer. Et pourquoi ne pas avoir des choses comme l'Égypte, par exemple, avec toutes les conditions qu'il faut.
Un dernier mot, qui concerne cette compétition, les moins de 17 ans. Vous allez affronter l'Algérie vendredi. L'Algérie, on l'a vu, avec une défaite déjà face à l'Égypte. Comment on se présente pour vous avant d'espérer qualifier pour les demi?
Ça va être dur, hein. Ça va pas être du beurre à couper. Mais je suis optimiste. Avec les jeunes, vous savez, quand elles sont dans le terrain, elles peuvent produire beaucoup de choses. On les laisse deux fois, pas de pression, on les laisse découvrir les talents qu'elles ont elles-mêmes, qu'elles prennent du plaisir à jouer. Donc on les impose pas assez de trucs. Et j'espère me retrouver en demi-finale, jusqu'en finale. En tout cas, je suis optimiste là-dessus.
On vous souhaite beaucoup de courage et en tous les cas, on vous remercie une nouvelle fois.
Et je vous remercie beaucoup parce que là, depuis le début, vous nous suivez de près. Donc du coup, ça veut dire qu'on a beaucoup impressionné les Algériens et j'espère que ce ne serait pas la dernière fois non plus. Et Inch'Allah, nous comptons et accomplir le devoir que nous sommes venus faire.
C'était l'entretien de Lotfi Benidir avec Mara Titi Clémentine, la sélectionneuse nationale de la sélection de handball de Guinée.
Merci à vous Rostom Yahya Chilif. On vous retrouvera dans d'autres éditions pour d'autres actualités sportives. Le magazine continue dans quelques instants. On revient, on est là jusqu'à 21h. 19h, on est là jusqu'à 19h. bienvenue dans cette deuxième partie du magazine qui continue jusqu'à 19h et on passe tout de suite à l'économie avec le rapport 2025 du cabinet italien TA. L'Algérie figure désormais parmi les trois pays africains les plus attractifs sur le plan économique grâce à la hausse des investissements étrangers et à la diversification du tissu productif. Les détails avec Alim Boukadoum.
L'Algérie grimpe dans le top 3 africain de l'attractivité économique, trois critères clés, plus d'IDE, une gouvernance qui se renforce et surtout un capital humain en progrès. Le cabinet italien TA le confirme. En 2024, le PIB a atteint 270 milliards de dollars, un chiffre porté par trois piliers, l'énergie, l'agriculture et l'agroalimentaire. Pour Toufir Hadkri, le président du cluster fruits et légumes à l'export, c'est la preuve que l'agriculture peut jouer dans la cour des grands.
On s'aperçoit que l'agriculture algérienne dans de nombreux domaines est en autosuffisance, notamment pour la pomme de terre, pour l'oignon, pour tout un tas de fruits et légumes. Il y a même un certain excédent et cet excédent-là va vers la transformation. Auparavant, on importait, maintenant on n'importe plus, à l'image des agrumes et des concentrés d'agrumes et des concentrés de différents fruits. La tomate, à un moment, on l'importait, maintenant on l'importe plus. Donc, il y a une certaine autosuffisance qui s'est créée de par la politique étatique. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a simplifier au maximum le contact entre l'administration et l'agriculteur. On demande maintenant à l'agriculteur que de travailler simplement parce qu'on lui a donné les forages. C'est l'administration qui va à l'agriculteur et non le contraire. Et donc, ça lui permet de gagner du temps, ça lui permet de gagner de l'argent et ça lui permet d'être plus efficient. Il y a des formations qui ont été faites, il y a tout un tas d'actions qui ont été faites de par l'État algérien à travers les chambres d'agriculture. Vous savez, toutes ces petites choses-là ajustées l'une à côté de l'autre, bah, ça donne le résultat qu'on a aujourd'hui.
Mais l'enjeu désormais, c'est de préserver cette dynamique et d'aller plus loin, car au-delà des réformes bancaires, juridiques et fiscales qui ont assaini le terrain, la vraie question est comment transformer cette attractivité en un moteur durable de prospérité. Abdelkader Mjdel, économiste.
Les besoins de l'économie nationale en matière de diversification et d'investissement sont vérifiés. Nos partenaires le savent très bien. Ce qui reste, c'est que nous avons besoin de passer vers une politique offensive par rapport à la réalisation des investissements. Cette politique offensive consiste en fait de se référer aux normes internationales en matière de prise de décision. C'est-à-dire que nous aurons besoin de travailler sur la performance des secteurs d'activité d'une manière à ce que les indicateurs de performance soient proches de ce qui se fait à travers le monde, c'est-à-dire des normes internationales.
L'économie nationale est sur une trajectoire ascendante et les chiffres récents parlent d'eux-mêmes, plus de 7 milliards de dollars d'exportation aux hydrocarbures, un excédent commercial de 53 milliards de dollars et des réserves de change au-dessus des 68 milliards de dollars. We'll be right back.
termine avec de l'actualité culturelle dans cette deuxième partie du magazine avec la quatrième et avant-dernière soirée du programme du Festival International de la Danse Contemporaine. Hier au TNA, un public nombreux est venu apprécier et découvrir des expressions des chorégraphes et invités à se produire sur scène. Une soirée où le thème de l'humain en quête de paix s'est illustré. Les détails avec Helen Sacy.
Une scène où l'art se dépouille de tout artifice pour revenir à l'essence même, l'humain dans son état brut. La soirée d'hier a été dédiée à l'humanité dans toutes ses dimensions à travers des tableaux qui racontent la fragilité, la force et surtout le dialogue des civilisations. À l'image du spectacle Un boléro d'Oran, une adaptation d'un classique sur fond d'un héritage national. Faisal Zardoudi, chorégraphe de la troupe du Théâtre d'Oran.
J'ai beau avoir été formé en France, j'ai beau avoir travaillé exclusivement en Occident, il s'avère que je suis pas vide de sens et que je suis rempli d'un héritage. Et donc, bien évidemment, ma façon de danser, ma façon d'exécuter, ma façon de m'approprier un geste, il est rempli de mon histoire. Et donc, je suis allé avec eux, donc avec ces gestes-là que moi j'ai reconnus et qu'on n'a pas nommé de manière, savante, à part la danse Shaoui, parce que celle-ci je la connaissais véritablement. Et donc, je voulais absolument qu'on garde cette chose-là.
Dans une danse débarrassée de tout décor et orné de silence où juste le corps et l'émotion se conjuguent sur les pas d'un flamenco du genre nouveau. Laura Pieles, chorégraphe danseuse, représente l'Espagne.
Je vais faire un mélange entre le flamenco et aussi la danse contemporaine et qui raconte une histoire de toutes les différentes émotions qu'on a dedans encore. Il y a de flamenco aussi dans mon spectacle. Pour moi, j'ai l'habitude d'étudier différents styles, différentes disciplines depuis que je suis très petite et je crois que c'est comme la vie. Le message, c'est que nous sommes très riches, très complètes, mais que toutes les personnes peuvent être pour tout ça, différentes émotions, et c'est très belle.
Un art qui séduit de plus en plus le public.
J'ai adoré surtout le groupe Sylphite. Les filles, elles étaient adorables. La choré était géniale.
Le premier spectacle qui m'a été en rang, j'ai beaucoup aimé. Deux choses, c'est par rapport aux danseurs. C'est Blabba, c'est Adam. Tanik, c'est un très bon solo, j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est un bon spectacle. Et globalement, en général, c'est magnifique.
Je suis surpris. Je ne pensais pas qu'en Algérie, on avait encore cette forme d'expression artistique. Je trouve que pour la jeunesse, c'est bien, c'est un espoir. J'espère que l'avenir nous réservera de bonnes surprises. Et vive l'Algérie!
Au-delà de la beauté du spectacle, cette avant-dernière soirée du Festival culturel international de la danse contemporaine rappelle que cet art est aussi la mémoire partagée d'une humanité en quête de paix et qui s'écrit pas à pas sur la scène du Théâtre National d'Alger.
Il est 18h48 minutes.
Vous écoutez Al Jazeera 3, l'appel à la prière d'El Maghreb.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
شفيعنا 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 يا محمد لا تشفي في الأعداء أي شفيعنا محمد
أنا الهميم سرت منك من بعد كنت عايش عيشة رغدا أنا صهيه صرت مسهد وازداد روع قلبي ما بغى يهدى وأنا اللي غريب مفرد لا خو حنين عندي حر الكبدة أعيد في الصحاب نجود ونقول خير لي هذا من دا والآن جيت ليك مقصد قصدي تفكني من هذا الفقدة ما صبت في الزمان مرشد ولا صديق صبته لي يا سندا شفيعنا يا محمد أنا هربت عندك خوفان من ذا العدال يظلموني النفس والهوى والشيطان الشرار شرهم حازوني لله جود لي بالأمان يا سيد الوجود عيوني بالدمع نظل نغرد ونبات في الدجا تانا رجال الفدا كم اللي مع الوقت مجرد بالتعب والشقاء ومحاين عدا شفيعنا يا محمد أنا أدر السلام بالإيمان المناهج الصلاح ندرني وعلى عدا يقوم الاختلان شانك العظيم انصرني راني على بوابك حيران أهميم طالبي يا حزني لازلت عن شكاية موبد حتى
تنشوف حسادي فيك مدى ونعود للسرور نجدد وتحل كل ما عندي من عقدة شفيعنا يا محمد حرمة دخيل بعضي مشان الشر ما تشوفوا عيني حرمت من غزاف الطغيان عالي المرتبة تعطيني شاين طلبت عندك عجلان وبحلة الستر تكسيني عني هموم قلبي طرد وجميع من طغى عني وتعدى يفزع بعد ما يتجهد ما دار لي اليوم يصيبه غدا الحبيب سيدنا محمد وشفيعنا شفيعنا شفيعنا يا محمد لا تشفي في يا ندى عيا شفيعنا محمد شفيعنا 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 يا محمد لا تشفي في يا ندى عيا شفيعنا محمد يا طيب نسب عدنان من الاحسان لا تنساني انت شفيع في الانس وجان وربنا الرحيم الجاني انت عريس جنة رضوان واعطاك كل خير الغاني غردي من الحوض نورد روحي نهار تخرج من دلك سدا تلقاك في الطريق موجد وفي جنة الخلود نبغيها تغدا الحبيب سيدنا محمد يا غوت كل ضامي لفن محصر النفاس وفاني انت الحريص عند الميزان وتغيث امتك شرهاني والله ما بحالك سلطان ولا يشابهك إنساني حبك فرد خال موبد يا سيد ما خلق ربي من ولدة يا سيد ما بحالك سيد يا سنة الغريب لا لو سنة عني كل حزة طرد باغي الخلق مثلي ما نتجدى هكا قلبي برز مدبد مختوم بالصرع عن صار ملهدى هكا قلبي برز مدبد مختوم بالصرع عن صار ملهدى الحبيب سيدنا محمد طه شفيعنا في المحشر غدا وسلامنا على من شهد بالله والنبي وفرايد أدى واسمي شهير بان من الضد الطيب الضعيف من طيبة وشدا من هالبيت من يتوكد الاسلام اللي اهتاتيه من وطا وكدا عاري عليك يا محمد.
Et c'était une très belle chanson de Jamal Arous et Chfeana. Et c'est déjà la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Merci à Ali Lavissi de l'avoir réalisé. Et quant à nous, on se dit à demain, même heure, même station.
بغيت نفاجي بغيت نادي لي كانت في الحضر رجعت في الماضي بغيت نفاجي بغيت نادي لي كانت في الحضر رجعت في الماضي يا بغيت نفاجي بغيت نادي لي كانت في الحضر رجعت في الماضي بغيت نفاجي بغيت نادي لي كانت في الحضر رجعت في الماضي طعنا ويدان وزمان وشي ما بان تبنت البلاد هدمت برا كل شي ما زاد كبروا الجهاد حب بخيال كل شي ما دال من يتكلك يا لولي انا كنت سيد رجال بغيت نفاجي بغيت نادي اللي كانت في الحضر رجعت في الماضي بغيت نفاجي والنادي اللي كانت في الحضر رجعت في الماضي I'm
سهرانسين ولمين سهرانسينين سهر نجوم والقمر على طول الليل يا الليل طويل يا زهره.